Parlons un peu de l'important dossier de la santé mentale. Il se trouve que ce matin, à l'émission de Paul Arcand, et je vous le jure, c'était pas prévu du tout, mais il y a des journées comme ça où les cris du cœur arrivent tous en même temps. Paul a parlé à une mère là qui lançait vraiment un cri d'alarme pour dire « Aidez-moi, j'ai un fils qui est complètement ingérable avec des enjeux de santé mentale importants et je ne sais plus vers qui me tourner ». Et moi, il y a quelques jours, une autre mère m'a partagé son cri du cœur à elle aussi. Son fils souffre également d'enjeux de santé mentale. Il est carrément violent avec elle, avec ses proches. Et mon invitée est infirmière, pourtant, donc elle est habituée à faire face à certaines maladies. Et pourtant, quand c'est sa propre famille, quand c'est son propre enfant, on comprend à quel point on peut vite tomber dans le désarroi. Elle est d'ailleurs en arrêt de travail depuis décembre, à tel point que c'est difficile. C'est vraiment une grande culpabilité que portent les parents aussi par rapport à leurs jeunes. Dans le cas de José Maurice, qui est avec moi, son fils est considéré comme un danger pour lui-même également. Madame Maurice, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler ce matin. Merci de m'avoir écrit d'abord. Ce que vous m'avez écrit m'a beaucoup touchée. Vous vouliez mettre en lumière que votre fils, qui est considéré comme un danger pour lui-même et pour les autres, finalement n'a pas accès à des services, des soins pour qu'il puisse trouver un certain équilibre par rapport à ses troubles de santé mentale. Merci de nous parler, José.
Ben merci à vous, Madame Maréchal, de me donner un petit auditoire là ce matin. C'est un grand, ouais, c'est pas facile. Puis parce que dans le réseau de la santé, on est habitué à traiter des gens comme ça. Puis moi, je le sais que dans le système de la maladie mentale, pour avoir été infirmière à l'urgence assez longtemps. C'est pas des patients, c'est des patients qui reviennent tout le temps. Hein? Puis plus on a un diagnostic tôt, puis plus c'est facile. Donc dans le cas de mon fils, le délai que ça a pris pour avoir un diagnostic en santé mentale, ça a pris presque 10 années. Fait que le parentage aurait été différent si on avait eu un diagnostic plus tôt. Fait que moi, c'est un peu ça mon cri du cœur, c'est 10 ans plus tard, mon fils qui a maintenant un dossier criminel, parce que tout s'entremêle, hein, quand on a, pour ce qui est de mon fils, c'est un trouble de personnalité limite, hein, donc c'est un désordre, c'est pas une maladie comme telle, c'est pas un désordre chimique dans le cerveau, il y a pas de médication comme la schizophrénie par exemple, hein, donc c'est la gestion des comportements difficiles, des crises, en fait, de sa violence là, physique, émotionnelle, psychologique et financière. Finalement, là, c'est une violence qui est totale. Et c'est tous les gens autour de lui. Mais chez les TPL et les jeunes, comme mon fils qui a à peine 18 ans, ça amène d'autres comportements qui, en plus d'être mêlés à la consommation de drogue, devient un TPL encore plus à risque pour lui-même et pour les autres. Et là, on est rendu au point où est-ce que moi, ma vie était mise en danger, donc j'ai fait appel aux policiers et finalement, j'avais de grands espoirs là pour l'admission qui est en cours. Puis, jour après jour, je suis désarmée de voir qu'on s'apprête à laisser aller mon fils dans la société, dans la communauté, sans qu'il ait reçu tout ce qui était nécessaire là pour son bien-être à lui. Lui ne croit pas qu'il a une maladie mentale. C'est ça la problématique, hein, dans ces cas-là. C'est qu'il se croit bien. Il croit que c'est les autres la problématique. Ça, c'est typique des gens avec un trouble comme celui qui l'affecte. Donc, pour nous, dans la famille, on est rendu au point presque de non-retour, ce que moi, je dois presque couper le lien avec mon fils. Donc, ça me brise le cœur. Ce matin, ce que je veux dire, c'est comment se fait-il que ces enfants-là ne sont pas pris en charge très, très, très tôt, parce que les signes sont là depuis qu'il a 10 ans. Donc, comment se fait-il qu'un diagnostic a pris 10 années, que ça a pris beaucoup d'admissions à l'hôpital forcées pour finalement avoir? Fait que la responsabilité qui retombe sur les parents, elle est énorme. Et c'est ça, moi, qui est en bout de ligne, qui a fini par faire en sorte que je reste à la maison, que je puisse plus fonctionner dans mes tâches d'infirmière, parce que c'est devenu une vague de laquelle j'arrivais pas à ressortir là. Donc, ce matin, moi, j'appréhende beaucoup la sortie de mon fils.
Parce que là, il est où, José Maurice, en ce moment, votre fils de 18 ans?
Il est hospitalisé hospitalisé en psychiatrie, hein, mm-hmm. dans une unité fermée où il n'y a pas accès à la sortie, où il y a des sorties qui sont supervisées de quelques minutes. Là.
Il est hospitalisé depuis 8 jours. Hein? Ça a fait 8 jours hier, c'est ça?
En fait, ça fait 10 jours aujourd'hui.
10 jours aujourd'hui.
Mm-hmm. Et puis, c'est parce qu'on a poussé fort là et que le centre hospitalier avait décidé initialement de faire la fameuse demande de P38. Ça veut dire que le centre hospitalier réalise le danger qu'il est pour lui-même et pour les autres et doivent demander à un juge de le garder en centre hospitalier contre son gré. Hein? Mmh. C'est un grand pas qu'on le disait parce que à ce moment-là, le juge va demander des évaluations psychiatriques distinctes de différents psychiatres avec une limite de temps afin de recevoir ces rapports-là, afin qu'il y ait une action rapide qui se fasse. Malheureusement, ça a été retiré, cette demande-là, par le centre hospitalier.
Et moi, ah oui, le centre hospitalier a retiré donc la possibilité d'aller devant le juge pour ordonner à votre fils de ordonner à l'hôpital en fait et donc à votre fils de rester à l'hôpital sous surveillance pour
exact. Donc c'est-à-dire que je disais que plutôt c'est très psychiatre dépendant, hein? Moi c'est ce que je m'aperçois. Donc, le psychiatre qui l'a admis trouvait qu'il était vraiment en danger pour lui-même et celui qui a pris la relève quelques jours plus tard, lui a décidé que on va faire une entente entre moi et le patient. Moi, je vais croire le patient dans ce qu'il me dit et puis on annule cette demande-là et mon fils de se faire dire, ben vous avez aucune obligation légale de rester ici. Monsieur, vous pouvez partir quand vous voulez. Alors, je suis étonnée qu'il est encore là, qu'il n'a pas utilisé son droit. Hein? Je pense que moi, ça me surprend beaucoup. Pendant qu'il est là, je sais très bien qu'il ne prend pas ses médications parce qu'il me le dit. Alors, moi, mon rôle, c'est encore de rapporter aux soignants. Écoutez, il me le dit, là, les soins que vous lui apportez, il les rejette pendant qu'il est à l'hôpital. Donc, comment pouvez-vous faire confiance à un enfant qui va sortir? Puis, je dis un enfant parce que c'est mon enfant. C'est
oui,
un jeune
puis parce adulte. Que José, on le sait, 18 ans, là, ça reste encore très jeune. Là.
Encore très jeune, ouais. Très immature. Ouais. Et les TPL, ils sont immatures déjà un peu plus que la normale. Donc, dans ces crises, ça paraît là, son manque de maturité. Hein? Et puis, ce que j'apprends, parce que là, heureusement, le TPL, ça a un nom. Moi, je m'informe sur le TPL. Et là,
le trouble de la personnalité limite, là, je le rappelle pour nos auditeurs. Ouais.
Exact. Donc, maintenant, je vais suivre une formation sur comment on fait pour gérer un cas d'une personne qui est atteinte d'un trouble comme ça. J'aurais tellement aimé avoir ça il y a 10 ans. On m'a déjà donné des trucs, tu sais, par exemple, de donner un choix à une personne et de ne pas mettre des limites sans cesse et une à la fois, une par mois. Vous savez, c'est des choses comme ça que quand il avait 10 ans, ça aurait été tellement utile. Donc,
vous allez suivre alors, ça où, cette formation, pour gérer le trouble de personnalité limite de votre fils, José?
Ben avec des recherches faites, j'ai trouvé un centre de crise dans ma municipalité qui s'appelle l'Accolade, qui est c'est vraiment un organisme qui vient en aide aux gens qui doivent être en contact, donc les parents, les frères et sœurs, les proches hein, de ces personnes-là qui ont une maladie mentale. Donc c'est un support pour les parents et non pas pour le patient malade. Hein?
L'Accolade, c'est dans quel coin, ça, José?
C'est sur la rive sud, donc en Montérégie.
Mais ça, c'est vous qui l'avez trouvé vous-même à force de faire des recherches et pas le système là, qui vous a dit « Madame Maurice, regardez, on a cette belle ressource pour vous aider. »
Non, en fait, c'est mon conjoint qui a trouvé cette ressource-là. Et puis là, dès ce soir, je commence une formation là à recevoir pour comment gérer ça, mais aussi comment enlever cette culpabilité-là qu'on ressent, le parent. Hein?
Oui, tout à fait. Cette
espèce de « moi, je dois couper le contact parce que c'est nocif pour
moi. » Puis l'odieux aussi qui revient aux parents. Vous m'avez dit tout à l'heure, là, face à ces crises que je ne suis pas capable de gérer, qui est violent avec moi, avec ses proches, c'est moi qui dois appeler la police. C'est vous qui devez demander un P38 pour qu'il aille devant le juge, pour qu'un juge bon, c'est le cas de le dire, de le garder contre son gré. On sait qu'il n'y a personne au Québec qui peut forcer quelqu'un qui a un enjeu de santé mentale à prendre ses médicaments. Ça, c'est un autre débat. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça. Parlez-moi des crises de votre fils, José Maurice. Quand il devient violent, qu'est-ce qu'il peut faire? Je sais qu'il s'automutile, il est impulsif, il est dépressif, mais qu'est-ce qu'il a fait envers vous comme geste violent?
Ben, écoutez, dans sa jeune, je dis son, quand il était jeune, là, avant.
Il était plus jeune, oui.
Ben c'était de la violence, donc c'était dès que un de ses besoins n'était pas rencontré dans l'immédiat, il devenait violent. Donc dès qu'on refusait que ce soit une activité, peu importe, les réactions de ces gens-là, c'est immédiatement la colère, c'est une impulsivité. Donc à l'intérieur d'une seule minute, je pouvais voir mon fils dans un état calme, se désorganiser, ce qu'on dit maintenant, hein, il se désorganise complètement et une minute plus tard, il est en train de briser des choses. Et si je me mets dans son chemin pour tenter de limiter les dégâts matériaux, disons, c'est moi qui recevais les coups.
Il vous battait. Hein?
Ouais, ça c'était de la violence physique. Et là, il est plus grand que moi, il est beaucoup plus fort que moi. Donc moi, en février, j'ai décidé qu'il n'y avait pas de retour à la maison pour lui. Maintenant, il reste avec son père. Moi, je dois me protéger. Mais malgré ça, le contact mère est très important pour les gens atteints du trouble de personnalité limite. C'est ce que j'ai appris. Ce lien est très important pour eux. Ils vont à tout prix tenter de le garder. Mais à travers ça, il y a beaucoup de manipulation, c'est à cause de toi si je suis là. Donc ça, il faut que ce soit démystifié. Les gens pensent que la maladie mentale, vous savez, si j'amène mon enfant qui s'est coupé, on va le soigner immédiatement. Hein? Si j'amène mon enfant avec une maladie au niveau cardiaque, on va le soigner immédiatement. On ne va pas lui demander s'il veut se faire soigner. C'est là où je m'en vais avec ça. Soignez-les, ces enfants-là, quand ils arrivent, puis que vous savez très bien le diagnostic. Arrêtez de vous cacher derrière le TDAH. Tous les enfants n'ont pas le TDAH. Tous les enfants n'ont pas un problème de comportement qui apparaît comme ça. Il y a une base, puis il faut gratter. C'est ça. Moi, je trouve que c'est là où il y a des grosses lacunes, un gros manque de ressources dans la société, dans la communauté. Les gens veulent aider. Il y a des listes d'attente. Que pour voir un psychologue, il y a des listes d'attente incroyables. Donc, il y a
L'autre problème, José Maurice, c'est aussi le 18 ans. Le fameux 18 ans. Quand ils ont la chance et quand on a la chance, nous, comme parents, de leur donner des services, de leur trouver des services qui viennent aider soit la dépression, l'anxiété ou des troubles plus importants, des désordres d'ordre mental, comme celui de votre fils, par exemple, le trouble de la personnalité limite. Quand on a la chance d'avoir ce genre de services, quand ils sont ados, enfants ou ados, à 18 ans, là, imaginez une roche qu'on tient dans la main au-dessus de vos têtes puis que vous la laissez tomber.
Exact.
Comme vraiment, à 18 ans, c'est comme « merci beaucoup, bye ». Trouvez-vous d'autres sources. Avez-vous des idées? Non, vous pouvez aller voir au privé. C'est ça qu'on nous répond, je veux dire.
Ça n'a aucun bon sens.
Et là, à cause de la pandémie, il y a quelques personnes qui sont un peu plus compréhensives qui vont dire « bon, d'accord, je vais accepter de faire une couple de séances de plus, mais ce n'est que reporter l'échéance ou le jeûne ». Et donc, par ricochet, ses parents, là, parce qu'il ne faut pas croire qu'à 18 ans, tous les parents se dégagent la responsabilité de leurs enfants. Voyons donc, il y a encore des parents, hein, José, qui ont à cœur la santé mentale et physique de leurs enfants. Mais à 18 ans, et c'est ça qui est un problème majeur, on les dompe et on leur dit à eux et à leurs parents, arrangez-vous.
Exactement, exactement. Et puis avec ça vient le fait que... On ne parle plus aux parents. Hein. Mon fils est hospitalisé. Je ne reçois aucune information sur son état, sur comment il va, sur le plan de soins qu'il doit recevoir. Tout est gardé entre les traitants et mon fils. C'est un adulte.
Exact.
Alors moi, quand j'appelle pour avoir un peu de nouvelles, comment la nuit s'est passée, tout ça, je reçois aucune information. Et de l'autre côté, je ne peux donner aucune information. Moi, je trouve que l'information que j'ai à apporter au plan de soins est importante. Voici mon fils. Laissez-moi vous le présenter. Ça fait 5 fois qu'on vous l'amène. Vous avez un dossier quand même épais. Prenez-vous le temps de le lire. Ou est-ce que peut-être parler à un parent qui vit la violence, qui se poursuit, parce que cette violence-là se poursuit, il n'est plus sous mon toit, cette violence-là se poursuit avec les autres personnes qui sont dans son entourage. Donc, c'est pas une violence envers maman seulement, c'est une violence envers tout ce qui s'oppose.
Il a déjà battu d'autres personnes à part vous, là, Josée.
Oui, absolument. Malheureusement, il y a un dossier criminel maintenant. Tout s'entremêle au moment où on se parle. Mmh. Et puis, on me parle maintenant de peut-être un programme qui est... et je vous dis, là, je reçois des services, là, tout à coup, depuis que j'ai sonné l'alarme, que j'ai cogné à des portes, puis tout à coup, on m'offre des choses que je n'avais aucune idée existaient. Il y a un programme PAGE qui s'adresse aux gens, des jeunes qui sont en problème avec la justice, avec des problèmes mentaux. Ils essaient d'amalgamer les soins. Je trouve ça fantastique. C'est ce qu'on a besoin.
Mais comment ça se fait qu'on ne le sait pas plus aussi?
Mais comment ça se fait qu'on ne nous en parle pas? Exactement.
Josée Maurice, vous pouvez rester avec nous. Merci d'abord au nom de tous les parents et de tous leurs jeunes là, qui vivent ce genre de situation extrêmement dramatique. Je sais qu'il y en a beaucoup au Québec. Là. Vous êtes loin d'être la seule, Josée. Ce matin, Paul a donné la parole à beaucoup de ces parents-là qui ont tellement de la bonne volonté, un cœur immense. Imaginez l'odieux qu'on fait porter aux parents qui doivent appeler la police, qui ont peur de leur propre enfant. Imaginez que c'est vous, là. Ça n'a pas de bon sens, je vous le dis, là. C'est une situation qui devrait inquiéter au plus haut point le gouvernement, François Legault, le ministre Carman, le ministre de la Santé, Christian Dubé. Sincèrement, là, ça, c'est énorme comme enjeu de santé publique, énorme. On va en parler, je vais vous donner la parole. Si vous vous reconnaissez dans l'exemple de Josée Maurice, bien sûr, on va vous donner le temps de vous exprimer. Tout de suite après ceci, 514-790-9850, c'est dans la grande région de Montréal. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Il y a plein de questions qui se posent, mais en gros, là, comment gérer la violence d'un proche qui souffre de problèmes de santé mentale? Comment ça se fait aussi qu'il ne soit pas pris en charge, ce jeune-là, ses proches-là qu'on aime? Comment ça se fait que ça prend 10 ans pour avoir des diagnostics, comme c'est arrivé à Josée? Vous voyez que les questions pleuvent, là. Ce serait le fun d'avoir un petit peu de réponse. À tout de suite. On parle d'enjeux de santé mentale. Vous avez entendu sans doute le témoignage de Josée Maurice, mon invitée. C'est une infirmière qui a l'habitude pourtant de traiter toutes sortes de problèmes. Elle a travaillé longtemps à l'urgence. Elle est mère d'un fils qui souffre d'un trouble de personnalité limite, ce qu'on appelle un TPL. C'est depuis 10 ans, c'est difficile de gérer ce genre d'enjeu de santé mentale. Il vient d'avoir un diagnostic depuis août dernier. C'est un trouble qui le rend excessivement violent, impulsif, dépressif, il s'automutile. Et quand il est violent, il s'attaque à sa mère et à ses proches, ce qui fait qu'ils ont dû appeler la police. Et ça a été difficile pour la vie de ce jeune d'aller à l'école aussi. Josée est toujours avec nous. Josée Maurice, vous me disiez que l'école, il l'a quitté en secondaire 3. Il est allé 4 fois à l'école pour adultes, mais à chaque fois, il n'est pas capable. Ça devient difficile pour lui aussi de s'adapter à la société.
Mais je pense qu'il devient désorganisé là, dans sa tête à lui. Il arrive à rien faire sans l'aide de quelqu'un. Hein? Fait que lui, il est habitué, selon lui, à ce que tout le monde fasse un peu tout pour lui. Fait que il y a comme une espèce de refus de se prendre en charge. Mmh. C'est ce qu'on s'aperçoit. Alors oui, l'école en souffre. Il n'a pas fini son secondaire, malheureusement. Il a toujours l'intention de le faire. Il le dit haut et fort, s'inscrit, mais n'y va pas. Il y a comme une espèce de blocage. Comme lui, il m'explique, c'est comme un blocage dans sa tête, qu'il y a la volonté, mais pas la capacité. Ouais. Fait que ça fait un peu pitié, là, moi, je trouve.
Mais lui, ne se considère pas malade. Il ne se considère pas atteint d'un trouble de personnalité limite.
Non. Ouais. C'est très fréquent chez les gens qui souffrent de TPL, en fait.
Oui, effectivement. Il y a Suzanne qui m'écrit, vous avez dit tout à l'heure qu'à 18 ans, ils n'avaient plus de service. Elle dit, j'ai pas pu m'empêcher de penser. Probablement que Suzanne vit un peu la même chose. Misère, c'est plutôt à 14 ans qu'on n'a plus rien. C'est vrai qu'à 14 ans, les jeunes au Québec, je vous le dis souvent, là, mais c'est vrai qu'à partir de 14 ans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Leur dossier de santé n'est plus accessible aux parents. Ça, je pense que c'est important de le dire. On peut rien savoir. Si notre jeune veut partager ses informations de santé avec nous, ben on est chanceux. Mais sinon, à partir de 14 ans, c'est chut, maman, pose pas de questions, papa non plus. C'est quand même un peu. Nous, comme parents, là, la seule responsabilité qu'on a, c'est de payer les pots cassés s'il y a lieu. ou de gérer quand ça va mal, mais on est vraiment laissé pour compte. On n'est pas du tout tenu au courant. Et je pense que ça aussi, c'est un problème. On a Marie-Claire qui est avec nous. Marie-Claire qui réagit aux troubles de personnalité limite, parce que je pense que vous l'avez, vous aussi, ce TPL. Marie-Claire, vous vivez avec ça depuis longtemps?
Oui, depuis très longtemps. Écoutez, la première fois que j'ai consulté, là, j'avais 19 ans, soit en 1984. J'ai eu de l'aide, là, j'ai commencé à avoir de l'aide, de la bonne aide pour ça, la première fois en 2005. Puis la fois que ça a vraiment aidé, c'est à peu près 4 ans. Puis ils m'ont donné des médicaments, un puis un autre, là. Puis c'est pas ça qui a aidé, c'est la thérapie qui a aidé.
Ah ouais, la thérapie, effectivement.
C'est la première fois que je me suis assise, puis que j'écoutais les autres parler, puis que je me suis vue dans d'autres qui étaient pareils comme moi. Mm-hmm. C'est là que ça a eu vraiment un impact. Puis il y a une chose aussi qui est importante à dire. Le TPL, pour moi, là, je peux vous l'exprimer de même, là, c'est comme si je me promène avec une bombe dans les mains, puis on sait pas quand est-ce qu'elle va sauter. Puis quand ça saute, ça éclabousse bien du monde, mais il reste que c'est moi qui l'ai dans les mains à bombe. Mm-hmm. La personne qui souffre là-dedans, là, c'est incroyable la souffrance qu'on peut avoir. Puis moi, là, j'ai deux frères à maison, un grand puis un plus jeune. Ils n'en ont pas, eux autres. Ils n'ont pas le trouble. Mais je m'organise mieux qu'eux autres. J'ai jamais battu personne. J'ai zéro dossier criminel. C'est important de pas dire que... Tu sais, de nous en mettre plus que qu'est-ce qu'on vit déjà, là. Mm-hmm. Moi, j'ai jamais frappé personne de ma vie. Je vais prendre, moi, pouvoir avoir ma retraite dans 4 ans. J'ai une belle retraite, bien payée. J'ai même été à l'université en droit, j'ai pris des cours en droit. Fait qu'il faut faire attention à tout ce qu'on donne sur le dos du TPL,
tu sais. Puis il y a différents degrés aussi.
Ben, c'est parce que oui, je viens enragée, madame. Là, quand mon médecin, il ne croyait pas, je disais, quand je suis avec vous, ça va bien, je vous connais, je vous fais confiance. Mm-hmm. Mais quand je pogne les nerfs, là, j'ai tellement enragé, là, c'est fou, là. Mm-hmm. Mais jamais que j'ai frappé quelqu'un, au contraire. Moi, là, j'ai été, en anglais, « bully », là.
Oui, intimidée.
Ça a recommencé, j'avais 4 ans, madame. Mm-hmm. Une pichette dans la rue. Fait qu'écoutez, moi, j'ai été victime d'intimidation. J'ai jamais frappé les autres, jamais de ma vie.
Merci.
Souvent, j'entends dire ça.
Merci beaucoup, Marie-Claire. Merci bien. On comprend bien votre témoignage. Puis Marie-Claire a raison. Il y a différents types aussi. Puis chaque personne le vit différemment. Mais ce qu'on entend de plus en plus, c'est des témoignages de parents et de gens qui ont toutes sortes d'enjeux de santé mentale et qui disent qu'ils n'ont pas de service. Regardez, ce que je retiens de l'intervention de Marie-Claire, c'est que ça fait des années qu'elle vit avec un trouble de personnalité limite. Elle n'est pas violente, là, mais elle peut avoir des crises. Elle enrage, comme elle disait elle-même. Et ça fait seulement quelques années qu'elle a finalement eu accès à des médicaments. Mais dans son cas, c'est la thérapie qui l'a beaucoup aidée. Le fait de se voir, l'effet miroir, hein, le fait de voir d'autres personnes qui vivent la même chose, elle s'est dit, accoudon, moi aussi j'ai ça. Françoise est avec nous. Bonjour, Françoise.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ben moi, j'avais envie de témoigner. Je suis mère d'un fils schizophrène il y a 30 ans aujourd'hui. Mais moi, je me rappelle à l'époque, quand il était jeune, dans le prodrome de la maladie, il a été déclaré schizophrène à 19 ans. Ça prend quand même un certain temps pour avoir ce diagnostic-là. Ouais. J'avais aucun service. Je savais même pas que ça existait, le prodrome de la schizophrénie. Et non seulement ça, mais quand moi j'ai été devant un juge pour demander une évaluation, ça n'a pas été facile, là, puis des fois même je le regrette, mais parce que le système de santé est en ce qu'il est. Mais je veux dire qu'il a été interné pendant 3 semaines, ils ont le droit de le garder pendant 21 jours. Il venait d'avoir 18 ans en mars, ça, c'était dans l'été qui a suivi. Il a été la première chose, le comité des usagers est venu le rencontrer à Louis H. Lafontaine pour lui dire qu'il était en droit de refuser tout traitement. Mm-hmm. Et il a refusé tout traitement. Au bout de 21 jours, on l'a mis dehors et il a été itinérant pendant un an et demi-temps avant que les policiers se tentent de le ramasser puis qu'ils demandent au médecin psychiatre de l'urgence psychiatrique où il l'apportait régulièrement de demander une ordonnance d'hébergement et de traitement. Mm. Moi, il n'était pas question qu'il vive chez moi. Il était violent. Il était intimidant. Il volait. Il respectait aucune. J'avais d'autres ados à la maison plus jeunes que lui. C'était vraiment pas drôle, mais j'avais personne m'informait. J'ai appelé la DPJ quand j'avais 16 ans, 17 ans. Là, à plusieurs reprises, les policiers étaient toujours rendus chez nous pendant les dernières années, les derniers temps qu'ils vivaient à la maison. Puis moi, il n'est pas question qu'il revienne même aujourd'hui. Là, présentement, il est à Pinel. Il a commis des actes violents pendant ses internements. Il a été condamné au criminel. Il a fait du temps en prison. Il a été rapatrié à Pinel par le médecin psychiatre de Bordeaux qui trouvait que c'était pas sa place, qu'il devait être interné. Puis finalement, mais il a été reconnu apte à subir son procès et responsable au moment du méfait.
Quel âge a-t-il aujourd'hui, Françoise, à nouveau? Quel âge a-t-il?
Il a 30 ans aujourd'hui. Il a été presque tout le temps en milieu fermé, là, en cœur fermé, là, depuis, je pense qu'il a été peut-être même pas 2 ans depuis ses 20 ans, là, qui a été libre de ses mouvements.
Ça doit être extrêmement souffrant pour lui, mais pour vous aussi.
C'est pas facile, absolument. Moi, j'ai dû faire mon deuil de mon fils parce que je me dis même si il y aurait un miracle, il guérirait miraculeusement aujourd'hui. Ça serait plus le même gars, l'humour qu'il avait, le sens de l'humour, tout ça, à cause de tout ce qu'il a vécu, je veux dire, de tout le vécu qu'il a, ça serait pas la même personne que j'aurais pu espérer, que j'espérais avoir quand il était jeune, vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais, ouais.
J'ai dû faire le deuil de la personnalité qu'il avait. La schizophrénie, c'est une maladie très complexe. Présentement, là, vu qu'il est à Pinel, il est extrêmement bien encadré. C'est un des endroits où tu peux avoir le plus de soins pointus au Canada, au Québec du moins, mais sinon au Canada. Il y a des excellents soins, beaucoup, beaucoup, beaucoup de thérapie de groupe pour la réduction des méfaits, la consommation de drogue. Présentement, ben, il est bien encadré justement parce qu'il sort pas du tout, surtout avec le confinement. Là, c'est encore plus pointu pour eux. C'est ça, mais là, j'y parle, il est très cohérent. Vous y parleriez aujourd'hui, vous direz, ben voyons donc, il n'y a aucun problème de santé mentale, ce gars-là.
Mm-hmm.
Mais il suit une médication qui est ajustée quotidiennement ou hebdomadairement. Il est suivi, il est très encadré, mais dès qu'il va sortir, il parle de le faire sortir. C'est sûr qu'ils ne peuvent pas toujours, ils ont des droits quand même, puis il faut les respecter, puis c'est à prendre en compte. Mais nous, c'est sûr qu'il y a des inquiétudes. Il va falloir le réintégrer dans la famille. Il y a toujours des malaises parce qu'il y a de la fratrie. Ils sont tous rendus grands. Mon plus jeune, il a 25 ans aujourd'hui.
Ouais.
Fait qu'ils sont tous rendus grands. Ils ont des vies avec des enfants, des conjoints.
Fait que c'est comme toujours à recommencer pour vous, Françoise.
Ah, absolument. Quand ils vont le mettre en ressources, tu sais, il va falloir qu'on... Moi, je veux pas me mettre en danger. J'ai déjà été victime de... séquestration de sa part, de violence un peu, pas extrême, mais quand même, pas moi, mais quand même. Je me mets plus en situation d'être seule avec lui, de passer des journées. Je pourrais pas dire, ben je vais t'héberger pour quelques temps, je vais te faire une chambre. Il n'y en est pas question.
Ouais,
il n'y en est absolument pas question.
Merci beaucoup de votre témoignage. Merci bien. Wow, c'est quelque chose. On va s'arrêter ici, très courte pause. On revient avec vos témoignages également après ceci. 514-790-9850 pour nous joindre dans la grande région de Montréal. 1-866-790-9850. Dites-moi là, si vous avez de la difficulté à gérer la violence d'un proche qui a des problèmes de santé mentale. On a également Doris Provencher qui va nous parler après la pause. Elle est de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits de santé mentale du Québec. Il y a Françoise qui disait que le comité d'usagers à l'hôpital avait suggéré à son fils, avait rappelé ses droits à son fils. Est-ce qu'à un moment donné, les droits des uns nuisent aux droits des autres? Toujours la grande question. Hein. C'est pas facile comme enjeu, mais c'est important de se poser ces questions-là. Beaucoup de gens m'écrivent, là, j'essaie de lire tous vos courriels, ils sont nombreux, beaucoup de gens veulent intervenir. Mélanie, on vous parle rapidement, je voulais à tout prix vous donner au moins la parole parce que vous, ça, c'est une histoire hyper dramatique là, que vous allez nous raconter.
Oui, absolument. Mon fils a commencé ses psychoses à l'âge de 18 ans, donc il avait commis... un voie de fait, a été à Pinel, a reçu l'aide qu'il avait besoin. Ensuite, il a été en psychiatrie à Saint-Jean-sur-Richelieu et est ressorti. Je l'ai aidé beaucoup. J'ai même abandonné des emplois pour l'aider. Malheureusement, pour faire une histoire courte, il a été correct avec une injection à tous les mois. J'avais enfin retrouvé mon fils comme avant. Malheureusement, il a voulu défendre sa sœur Il y avait aussi la consommation et tout là-dedans, mais il continuait à prendre sa médication. Mais en changeant de ville, il avait moins d'aide. Et pour défendre sa sœur, il a commis un voie de fait, il s'est retrouvé en prison. Mm-hmm. Ils l'ont gardé en prison un mois à Rivière-des-Prairies. Ensuite, ils l'ont transféré à Pinel. Ils m'ont pas demandé mon avis cette fois-ci, comparativement à lorsqu'il avait 18 ans. On m'a pas communiqué rien, on m'a pas rien demandé. On l'a retourné en prison après l'avoir analysé une semaine parce que là, c'était les vacances de la construction et tout. Mm-hmm. On l'a retourné. Ça l'a bien été jusqu'à la fin septembre avec les injections. Et un soir d'octobre que j'ai réussi à le voir en visite dans un cubicule, il était complètement désorganisé, on lui avait arrêté ses injections, il pleurait, il m'a même dit qu'il était pour mourir et le lendemain, il a été retrouvé dans sa cellule. Décédé. Et la veille, moi, j'avais appelé les infirmières. Je voulais parler à la psychiatre pour le transférer à Pinel. Je savais vraiment qu'il allait pas bien. Puis pour tout vous dire, Madame Maréchal, là, comme votre invité du début, Madame Maurice, je crois, je me retrouvais tellement dans elle parce qu'ils écoutent pas les parents lorsque nos enfants sont majeurs. Et ça fait 2 ans, le 29 octobre, que Jean-Sébastien est décédé. Et à ce jour, je ne sais toujours pas de quoi il est décédé, imaginez. Donc, même les parents, si on essaie de donner notre maximum et puis d'intervenir et de leur dire que notre enfant va pas bien, la majorité n'écoute pas parce que notre enfant est majeur.
Ouais, c'est ça. On en revient toujours à ça. Mélanie, écoutez, toutes mes condoléances et vraiment bon courage. Et surtout, je comprends que dans l'histoire de Mélanie, il y a plein d'inconnus. Elle a plein de questions. Elle ne sait même pas de quoi son fils est véritablement mort dans sa cellule. Imaginez le poids. Tu ne sais pas si ton enfant a fini par s'enlever la vie. Parce qu'il était en crise ou qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cellule-là? Je veux dire, le parent a le droit de savoir, même si le jeune a grandi. Puis vous voyez, là, c'est toujours la même histoire. Il y a le trouble de santé mentale, pas de suivi. Fait que là, c'est quoi? Là? Visiblement, il y a de la violence, la police intervient, puis là, ça rentre dans le système judiciaire. Puis de temps en temps, ça va en hôpital psychiatrique, puis là, ça ressort. C'est compliqué, mais en même temps, il me semble qu'il devrait y avoir des moyens d'intervenir pour éviter que, en bout de ligne, il y ait des morts, parce que c'est de ça dont on parle. Plein de gens me renvoient des cas, m'écrivent pour me dire qu'ils ont vécu la même chose. Leur jeune a fini par s'enlever la vie. Puis on est là à dire le suicide, c'est un enjeu au Québec. Oui, mais allons à la source du problème. Après la pause, là, c'est vrai qu'on lui parle. Doris Provencher est avec nous de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Elle va nous dire là, quelles sont les solutions. On va essayer d'être en mode solution là, pour les prochaines minutes. Quelles sont les solutions qui s'offrent aux parents et à ceux qui ont ces enjeux-là de santé mentale? À tout de suite. Doris Provencher, directrice générale de l'Association des groupes d'intervention en défense des droits en santé mentale du Québec. Merci, Doris, d'être là. On s'est parlé il y a quelques jours. C'est sûr que ce dossier-là revient dans l'actualité parce que c'est un problème de santé publique majeur auquel il faut vraiment s'attaquer. Là, je vais vous faire réagir sur ce que nous a dit tout à l'heure Mélanie. D'ailleurs, j'en profite pour lui dire que j'aurais beaucoup aimé avoir ses coordonnées. J'ai pas pu les... On les a, me dit Isabelle. Bon, ben, très bien. Parce que je veux faire le suivi sur les gens là, qui nous appellent. Je trouve ça important de le faire. Doris, Mélanie nous a dit, son fils qui fait de psychose, qui a fini par être trouvé mort dans sa cellule. elle a jamais été consultée. Et dans son cas, ou comme dans le cas de Françoise, à qui Françoise qui nous disait « j'ai dû faire le deuil de mon fils », mais il y a un comité d'usagers à un moment donné qui a dit à mon fils « vous savez, vous avez des droits, vous n'êtes pas obligé de suivre vos traitements, vous n'êtes pas obligé de prendre vos médicaments ». Je comprends que pour certains parents, là, on comprend pas ce bout-là. Comment ça se fait qu'on rappelle toujours à la personne qui a un enjeu de... qui est malade, là, disons le mot, là. On lui rappelle, regarde, t'es pas obligé de te faire soigner. Pourquoi cette... c'est quasiment de l'acharnement, je vous avoue, là, du côté des parents. On dit, ben voyons donc, pourquoi autant d'acharnement à les convaincre qu'ils sont pas obligés à suivre un traitement?
Ben, c'est parce que, de un, que ce sont leurs droits. Mais je veux rectifier, Madame Maréchal,
oui.
Ce que j'entends depuis des semaines, une désinformation. C'est pas vrai qu'au Québec, on peut pas traiter une personne contre son gré. C'est l'article 16 du Code civil du Québec. C'est ce qu'on appelle des autorisations judiciaires de soins
ou des ordonnances
de traitement.
P38?
Non. C'est par rapport au traitement. Une ordonnance de traitement. Il y a des milliers de personnes au Québec qui sont sous ordonnance de traitement au moment où on se parle. Alors ça, c'est faux de dire qu'on ne peut pas traiter contre son gré une personne. Il faut qu'elle soit considérée inapte, il faut qu'elle passe devant un juge, bien sûr, et il faut qu'elle refuse catégoriquement de se faire soigner. Mais moi, je peux vous dire que...
Mais considérée inapte, Doris, vous me permettez...
Ça, c'est un juge...
C'est majeur, là. C'est compliqué là avant d'arriver là.
Non, c'est pas compliqué. Écoutez... la demande, elle va venir d'un établissement qui vient, la demande va venir d'un médecin, que c'est l'établissement qui porte devant un juge. Moi, là, si jamais qu'il y avait une requête contre moi, là, on me donne 5 jours pour me défendre. Aujourd'hui, on me dit je passe en cours, dans 5 jours, je passe en cours, et je peux être sous ordonnance de traitement pendant 3 ans. Mm-hmm. Alors, il faut, on peut traiter quelqu'un contre sa volonté au Québec. C'est une décision du tribunal. Et je veux juste rappeler, là, je veux compatir aussi, bien sûr, avec tout ce que j'entends. C'est horrible, c'est l'horreur. Comment ça se fait qu'une mère n'a pas le rapport, parce qu'il a dû avoir une enquête du coroner pour son fils,
hein,
tout mort violent. Comment ça se fait que la mère n'a pas accès au rapport du coroner?
Je
comprends pas non plus. Je dois vous dire que je comprends pas non plus.
Mélanie, en tout cas, si vous nous écoutez, demandez-le le rapport du coroner.
Ben
vous avez le droit
à
cette information.
Il y a le bureau du coroner en chef. Allez voir. Je veux dire aussi, par rapport, je trouve ça terrible, ça fait 30 ans, Madame Maréchal, qu'au Québec, il y a des organismes communautaires qui viennent en aide aux proches, qui ont des proches qui vivent un problème de santé mentale, comme ça fait 30 ans qu'il y a des organismes de défense de droits en santé mentale. Ça fait 30 ans. Comment ça se fait que personne dans le réseau public a pu donner cette information-là, par exemple, à Mme Maurice? Je voudrais revenir aussi par rapport au diagnostic. C'est vrai que c'est compliqué, mais c'est parce que en santé mentale, ce qu'il faut comprendre, il n'y a pas de test physique, là. Il n'y a rien qui existe. Il n'y a pas de prise de sang. Il n'y a pas de scanner. C'est sur le comportement de la personne. Moi, les gens que je connais, ça fait quand même une trentaine d'années, en moyenne, là, ça varie entre 3 et 5 diagnostics psychiatriques. Un diagnostic, c'est le médecin qui le donne sur ce qu'il voit. Autre chose aussi, si vous me permettez.
Allez-y, je vous écoute. C'est intéressant tout ce que vous nous dites, Doris. On vous écoute. Ouais, ouais.
Et aussi, la confidentialité. Hein, tout professionnel est tenu au secret professionnel.
Mm-hmm.
Mais moi, je sais qu'il y a des médecins, là, que ils parlent avec les proches, ils écoutent les proches, ils veulent avoir leur avis. Bien sûr que si le patient demande à son médecin, vous ne dites pas c'est quoi mon diagnostic, vous ne dites pas, il est tenu au secret professionnel. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas parler aux proches, qu'il peut pas les interroger, les proches. J'ai entendu dire...
Doris, là-dessus, le proche va se faire dire, d'accord, alors parlez-moi, c'est quoi l'enjeu que vous avez, vous, par rapport à la situation? C'est comme si c'était le proche qui avait le problème. Visiblement, oui, on finit par en avoir un, mais vous comprenez ce que je veux dire? On veut pas s'occuper de notre propre santé mentale par rapport à... On veut juste savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de notre jeune. On veut des réponses.
Écoutez, comment ça se fait que si j'ai un proche à l'hôpital qui passe la nuit, puis que j'appelle, puis je prends des nouvelles, il va-tu bien, va-tu pas bien, on me le donne, ça devrait être confidentiel. Pourquoi qu'on me le dit pas? J'appelle mon proche qui est en psychiatrie. Est-ce qu'il a bien dormi cette nuit? Est-ce qu'il est correct? Je peux pas vous le dire, c'est confidentiel. Ben voyons donc. C'est ça.
Doris,
ça, c'est
merci. Écoutez,
oui,
on, non, mais pas du tout. Doris, c'est clair. On va, moi, c'est un engagement que j'ai pris il y a longtemps. Mes auditeurs le savent. C'est un sujet qui est récurrent dans mon émission parce que c'est important. Et c'est de plus en plus important parce que les derniers mois ont été souffrants. Ils vont l'être encore plus. José, Maurice, merci. Parce que votre témoignage a enclenché plein d'autres prises de parole. Et ça, c'est important. Déjà, en partant, là, qu'on soit capable d'entendre les parents, d'entendre aussi des gens qui nous appellent, qui disent, moi, j'ai besoin qu'on m'aide aussi. Donc, on y reviendra. Doris Provencher, merci beaucoup. Association des groupes d'intervention en défense des droits santé mentale du Québec. José Maurice, bon courage. Et à tout le monde, ben, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain. Passez une bonne journée.